C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vantus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 5 avril, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons par téléphone avec l'aratoire du CIDFF, le centre d'information pour le droit des femmes et des familles. Nous parlerons ensemble des différentes formations que l'organisme met en place, entre autres, ce sera juste après l'édito. Et en deuxième partie d'émission, Arthur est allé voir le spectacle Le Processus à Hispaniac le 22 mars dernier, rencontre avec la comédienne Juliette Alain et Léna du planning familial. Ce sera en deuxième partie d'émission. Il y aura de la musique comme d'hab, mais on commence bien sûr par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Je vais encore passer pour un anti-militariste primaire, mais bon, la loi de programmation militaire LPM 2024-2030 d'un montant total de 413 milliards d'euros contre 295 milliards pour la précédente a été présentée ce mardi 4 avril en Conseil des ministres avant un examen en séance publique au Parlement 5 à 6 semaines plus tard. Ça pique les oreilles, non ? Plus 118 milliards d'euros. 118 milliards d'euros, c'est dingue. Il y a plein de projets humanistes, écolos, sociaux pour lesquels il n'y a pas de pognon, et là c'est sans aucune difficulté qu'on trouve cet argent. Évidemment, quasi tous les articles de presse que j'ai pu lire sur ce sujet font état du fait que cette augmentation est due à la guerre en Ukraine. Elle abonde celle-là. Et encore, dans cette augmentation, il n'y a pas le matériel militaire prévu que la France va envoyer là-bas. 5 milliards pour un nouveau joujou de porte-avions, ou encore 5 milliards pour faire joujou avec des drones, j'en passe, et des meilleurs, bien sûr. Pourvu que... Comme on l'a vu par le passé, certains politiques n'appellent pas l'armée à intervenir lors de heurts ou de manifs. Mais enfin, pour ce que ça va changer, les représentants des droits de l'homme ont déjà fait état que les flics utilisent des armes de guerre contre les meutes dangereuses de manifestants. Armez-les et nous, petits moutons, nous serons bien gardés.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est formé ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade. Mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.
Nous sommes ce matin avec Lara Thouard du CIDFF. Bonjour.
Bonjour.
Le CIDFF, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles de Lozère, propose des formations. Vous en êtes la référence, Lara. On va en parler. Commençons par le début pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Dites-nous ce qu'est le CIDFF, qui a eu 30 ans l'année dernière d'ailleurs.
C'est ça. On a fêté les 30 ans et la fédération a fêté ses 50 ans. Voilà un réseau qui est implanté sur le territoire lozérien depuis un moment, mais sur le territoire national aussi. Donc le CIDF, c'est quoi ? Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. On est une association loi 1901 avec une équipe pluridisciplinaire, avec de multiples professionnels allant de la juriste à la psychologue, en passant par une éducatrice spécialisée, des chargées de mission, des chargées d'accueil, des accompagnateurs et accompagnatrices en insertion socio-professionnelle. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Une multitude de services qui permettent de répondre à différentes questions, toujours pour accompagner au mieux les personnes.
Alors, voilà. Comment ça se passe en Lozère ? On sait qu'en France, la situation est tout de même terrible hein, face aux féminicides, au harcèlement, aux discriminations. Comment ça se passe de par chez nous ?
La Lozère n'est pas du tout épargnée. On aurait tendance parfois à penser qu'en milieu rural, on vit moins des situations problématiques par rapport à certaines zones urbaines ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, pas du tout. Le CIDF, contrairement à ce qu'on voudrait, tourne beaucoup. On reçoit énormément de gens pour autant de questions qu'il y a de personnes qui existent, sur la question des violences, sur les questions des discriminations, sur la question de droit du travail, droit des étrangers, sur des questions de mise à l'abri pour des hébergements, etc. Donc il suffit de nous appeler et puis nous après soit on répond si on le peut, soit on oriente vers d'autres professionnels qui peuvent répondre aux demandes des personnes.
C'est ça, parce qu'en fait vous avez un flux d'appels qui est tellement conséquent que toute l'équipe, malgré tout ce que vous nous avez cité, vous n'avez pas assez de moyens humains.
Non, alors pas encore assez. Alors on s'est étayé hein, maintenant, du coup on est quasiment 11, on est quasiment 11 salariés, donc il y a 10 ans, moi, quand je suis arrivée sur le CIDF, on n'était que 4. Donc, c'est pour dire à quel point c'est monté en charge. Mais on n'arrive pas encore à répondre à toutes les demandes. On a des hébergements qui ont doublé, voire triplé, pour pouvoir accueillir plus de monde quand il y en a besoin. Mais c'est pas encore suffisant. Après, le territoire de la Lozère est quand même bien maillé. Et donc, on peut renvoyer, bien sûr, sur d'autres structures et des partenaires quand nous, on n'arrive pas à trouver de solution.
Alors, pour améliorer tout ça, si j'ai bien compris, vous avez mis en place des formations, il y en a 8, dont 2 qui sont déjà passées, hein, mi-mars, une autre qui s'est terminée le 30 mars. On va parler des 3 prochaines, puisque les dernières auront lieu en octobre prochain. La prochaine, c'est en mai, mais d'abord, à qui s'adressent ces formations et quels en sont les objectifs globaux ?
Alors du coup, les formations, elles sont surtout pour les équipes salariées, les entreprises, les personnes dans les milieux associatifs, enfin tout professionnel qui va accompagner les personnes du secteur privé ou du secteur public. L'idée, c'est vraiment de travailler l'accompagnement et la prévention. En gros, de prendre le mal à la racine, quoi. D'essayer de vraiment faire au mieux le plus tôt possible pour éviter les catastrophes.
Alors, ça dépend des formations, mais c'est entre 1 et 2 jours. C'est quoi ? C'est une première approche ou pour participer en fonction des thèmes dont on parlera tout à l'heure, il faut déjà des connaissances ?
Non, pas du tout. Alors, on a des gens qui viennent sur les formations qui vont avoir des niveaux très hétéroclites. Par contre, il faut absolument, quand c'est des formats de 2 jours, il faut suivre les 2 jours. Parce qu'il y a une progression, on va dire, dans la démarche pédagogique et dans ce qu'on veut amener aux personnes. Donc, en fait, c'est quand on a des formats sur 2 jours, il n'est pas possible de faire qu'une journée et après... Et pas la deuxième, c'est vraiment quelque chose de global. Après, concrètement, on prend les gens là où ils en sont. On fait passer des petits questionnaires au début pour savoir quelles sont les connaissances des personnes ou pas, s'il y en a, s'ils ont déjà suivi des formations, puis après on adapte notre format. Par exemple, sur la dernière, sur violence sexiste et sexuelle en milieu festif, on avait des gens qui étaient bénévoles, qui n'avaient pas forcément accompagné des victimes de violences jusqu'à présent, et des travailleurs sociaux qui avaient déjà été confrontés. Donc voilà, on fait avec ça.
Rentrons dans le concret, justement, hein, comme on le disait, les 2 premières ont déjà été prodiguées, on y va pour la 3e, ça se passera du 23 au 30 mai, là c'est 7 jours carrément.
Non, pardon, c'est le 23 et le 30 mai.
Ah, le 23 et le 30 mai, comme ça on est tout à fait clair.
Il y a une semaine d'écart entre les 2 jours de formation.
Violence sexiste au travail, comment et avec qui ça va se passer ?
Donc du coup, c'est avec Madame Martin, qui est psychologue sur la structure, et Madame Rebourgeon, du coup, qui est juriste. Et du coup, c'est travailler sur toute la question de comment on fait pour repérer, accueillir et accompagner des personnes qui peuvent vivre des agressions ou des violences, du harcèlement sexiste ou sexuel sur son lieu de travail.
Ouais. Et justement, c'est compliqué pour ces personnes-là de sortir du silence et d'en parler, encore aujourd'hui ?
Ah oui, c'est très très... Alors d'autant plus, quand on est sur son lieu de travail, il va y avoir une interconnaissance entre les personnes qui va être très très forte. Mmh. Et du coup, parfois, quand l'espace, le micro-espace va se trouver de pouvoir oser ne serait-ce qu'évoquer une situation qui peut être un peu complexe, va se poser la question des gens qui vont être réceptacles de ça et qui se trouvent parfois complètement démunis sur... qui appeler, comment faire, comment intervenir, qu'est-ce qu'on fait, quel est le cadre juridique, vers qui je peux orienter. Voilà. Et l'idée de cette formation-là, c'est vraiment de connaître la législation, connaître les interlocuteurs, mais aussi être capable un peu d'identifier ce que la personne, elle dit au travers de ses mots, au travers de ses actes, de ce qu'elle essaye de faire passer comme message. Et de bien sûr comprendre un petit peu les mécanismes des violences pour voir, pour être en capacité d'identifier un petit peu ce qui se passe pour les personnes.
Et puis parfois, il y a aussi le silence des collègues. D'ailleurs, ils peuvent le voir, etc. Ils disent rien. Il y a des solutions aussi pour sortir de ça ?
C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, concrètement, qui ne dit rien consent. Donc, c'est aussi une manière de briser certains tabous, pardon, et aussi vraiment de dire que quand on parle, quand on exprime, quel que soit de quel côté on se situe en fonction des situations, il se passe pas rien. Et mais si on ne dit rien, si on ne fait rien, les situations s'enquistent et ne peuvent que s'aggraver. En fait.
Et puis c'est condamnable et les personnes qui sont à la base de ces violences risquent gros quand même, non ?
Bien sûr, bien sûr. Alors ça, je vous inviterai à venir à la formation parce que c'est compliqué de donner effectivement des sanctions, des pénalités ou ce que peut rendre comme verdict un tribunal. Mais ça va vraiment dépendre des situations. Mais bien sûr, aujourd'hui, on a encore vu des textes de loi qui punissaient la question des blagues sexistes ou de l'agression, du harcèlement. Donc bien sûr, c'est condamnable, punissable et inadmissible dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en 2023. De vivre encore des mains aux fesses, des insultes, ce genre de choses.
Incroyable. On continue, il y aura une journée le 5 juin sur l'égalité professionnelle. Là encore, un énorme chantier.
Sujet. C'est ça. Alors du coup, ce qui est intéressant avec la question de l'égalité professionnelle, c'est qu'il y a quand même il y a aussi des bases qui ont été posées que parfois les gens méconnaissent sur des obligations qui doivent mettre en place au sein de leur entreprise, de leur association, de leur structure quelle qu'elle soit, et que les gens méconnaissent ça. Il y a des fois des gens qui ont très envie de travailler sur ces questions-là, mais qui ne sont pas nécessairement au courant des outils législatifs qui devraient en fait déjà de fait mettre en place. Et après, ce qui va être intéressant sur ces questions d'égalité professionnelle, c'est qu'est-ce qu'on fait pour travailler sur la question d'égalité des salaires, sur la question des plafonds de verre, sur qui prend les congés parentaux, etc. Enfin, c'est vraiment une manière de rétablir un rapport égalitaire entre hommes et femmes sur son lieu de travail. Et donc, toujours pareil, d'identifier et d'accompagner pour faire mieux que ce qu'on fait déjà.
Ce qu'il y a de dingue, c'est que ça fait des années qu'on entend la différence entre les salaires, etc. Et pourtant, on voit encore qu'il y a des inégalités, c'est fou.
Et en fait, c'est comme la question des violences, c'est-à-dire que quand on propose de travailler sur les racines, les mécanismes, les impacts, des stéréotypes, il y a plein de gens qui me disent, n'importe qui à l'équipe du CIDF, c'est bon, on est passé, on n'est pas du tout passé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites de manière complètement inconsciente, que quand on ne prend pas un petit peu de temps pour se poser, réfléchir, observer, et ne serait-ce que soi-même, et de ses comportements, de ses propres actes, on ne peut pas vraiment se mettre au travail. Parce que qu'est-ce qui explique aujourd'hui, malgré l'appareil législatif énorme qu'on a sur la question des salaires, qu'on a encore 20% d'écart ? Il s'explique notamment par la question des stéréotypes.
Et la dernière avant l'été, ce sera deux jours, le 22 et le 29 juin prochain. Alors sur un sujet qui peut faire des ravages, la cyberviolence sexiste et sexuelle, c'est malheureusement de plus en plus d'actualité. Il y a urgence de travailler sur ce sujet. Et c'est pas forcément simple de les combattre. L'idée là encore de cette formation, c'est de donner des outils pour la repérer et pour la combattre, c'est ça ?
C'est ça. C'est-à-dire que on a laissé un peu. On avait mis au CIDF, on avait bien sûr des situations et tout ça, des professionnels qui nous interpellaient. Et jusqu'à présent, on n'avait pas forcément pensé à de la formation. Et en fait, de plus en plus, on se trouve face à des gens qui nous appellent, qui sont complètement démunis par rapport à des pratiques et qui sont complètement qui savent pas ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que ça va impliquer juridiquement, à quel point ça peut être d'une violence sans nom aussi. On ne parle pas de bleu sur un visage, ou d'insultes qu'on aurait reçues dans la rue, mais concrètement, recevoir un dick pic sur son portable le matin quand on se lève, ça peut être d'une violence incommensurable. Mm-hmm. Donc du coup, voilà, c'est comment on travaille sur ces choses-là et comment du coup on va essayer d'avancer pour que ne serait-ce que les gens soient capables de reconnaître ce que c'est qu'une cyberviolence.
Est-ce qu'elles peuvent s'adresser aussi aux enseignants, par exemple?
Bien sûr.
Parce
bien
que sûr, les jeunes sont touchés, et ça, on l'entend aussi énormément.
Oui. Alors, du coup, on a eu des gens de l'éducation nationale qui sont venus sur, notamment l'année dernière, sur les formations violences intrafamiliales. Mais typiquement, quand nous, on crée ce genre de format de formation, c'est pour ça. C'est pour les gens qui accompagnent des personnes adultes, mais aussi des jeunes, bien évidemment.
Qu'est-ce qui vous révolte le plus aujourd'hui?
La liste va être longue, vous avez jusqu'à quelle heure?
Bon, il n'y a pas de souci, on a le temps.
Ce qui nous révolte, alors je vais parler juste au nom de l'équipe, enfin, je pourrais parler en mon nom aussi, mais ce qui nous révolte le plus, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, on se bat encore pour des choses où on a l'impression qu'on a peut-être 100 ans de retard. Enfin, qu'aujourd'hui, une femme n'ose pas sortir dans la rue avec une jupe, ou qu'aujourd'hui, elle soit encore obligée de négocier différemment pour avoir un travail ne serait-ce que décent ou à hauteur de ses compétences. Enfin, c'est juste inadmissible, en fait. C'est juste inadmissible. Que chacun puisse faire ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Et que ça soit pas encore possible dans une société si moderne, comme on se revendique de l'être, c'est pas possible, en fait. Donc ça, c'est insupportable.
Les dernières formations auront lieu en octobre et novembre prochain. On en reparlera évidemment sur cette antenne. Mais une dernière question. Ces dernières années, la lutte contre le féminicide, le harcèlement ou encore les discriminations était, par des promesses, une priorité du gouvernement. Quel bilan vous tirez de tout ça? Je pense connaître votre réponse, mais est-ce qu'à cette chose sont faites pour lutter contre ces fléaux?
Alors, on va dire que je serais mauvaise langue en disant qu'on n'a pas des appuis. C'est-à-dire que, notamment sur un plan gouvernemental, il y a des plans qui ont été mis en place, des actions, il y a des outils qui ont été créés. Alors, ils sont insuffisants. Voilà, les moyens alloués sont bien sûr insuffisants. Mais par contre, on sent depuis quelques années quand même, allez, on va dire depuis 5-6 ans, merci MeToo, hein, il a fallu ça. Mais vraiment une volonté, en tout cas, de travailler là-dessus. Donc le bilan, il est un peu en mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'accompagner comme on le voudrait. On revendique le fait qu'il faut qu'il n'y ait plus de violence, que les gens puissent aller au travail comme ils le veulent, qu'il n'y ait plus de stéréotypes, qu'on soit tous égaux et tout égal. Enfin, concrètement, on en est très loin. Donc, donnez-nous les moyens donner les moyens aux associations qui travaillent sur ces questions-là ou sur n'importe quoi, sur n'importe quelle structure qui veut travailler là-dessus, de pouvoir accompagner ça correctement. Et ne pas faire les choses à moitié. Si c'est vraiment ça qu'on veut, si c'est vraiment la lutte contre le patriarcat, une égalité totale entre les femmes et les hommes et toutes les personnes de manière globale, et ben donner vraiment les moyens. Voilà, faut pas faire semblant, faut pas faire à moitié. Et les gens qui s'engagent là-dedans ne peuvent pas le faire à moitié.
Et est-ce que vous en attendez plus, alors que ce soit le gouvernement, département, région, municipalité?
Bien sûr. Alors après, on est au quotidien, hein, voilà, on reçoit des appels à projets, on reçoit des subventions, on fait des grandes réunions, on discute de tout ça. Chacun fait à hauteur de ce qu'il peut. Mais bien sûr, nous, on est là aussi pour interpeller les collectivités publiques, pour dire, écoutez, on a besoin de moyens. Nous lâchez pas, parce que nous, on est au quotidien avec les femmes, au quotidien avec les personnes, au quotidien avec des hommes, qu'on vit aussi travailler sur ces questions-là. Nous lâchez pas, parce que c'est maintenant que ça se passe.
Si vous voulez vous inscrire, auditeur, auditrice, ou avoir plus d'infos sur les formations prodiguées par le CIDFF, tout simplement vous envoyez un mail à formation@cdff48.fr, puis il y a le site lozere.cidff.info. Je mets tous les liens sur notre site dans un instant. Merci beaucoup, Lara.
Merci.
Lara Thouard, référente formation pour le CIDFF, et bravo à toute votre équipe pour ce que vous faites. À bientôt.
À bientôt.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
On vient d'écouter Grand Corps Malade, mesdames. Le 22 mars dernier, Arthur est allé à Hispaniac où a eu lieu la représentation du spectacle Le Processus. Ce spectacle raconte le parcours d'une lycéenne qui cherche à avorter. Se posent alors ses doutes et les difficultés inhérentes aux violences de genre présentes dans notre société. Pour que la pièce soit aussi un temps de débat et d'éducation populaire, des membres du planning familial demandent et étaient présents à l'issue de la représentation. Arthur a donc rencontré la comédienne Juliette Alain ainsi que Léna du planning familial. Interview croisée.
Ok, donc salut, on vient de voir la pièce Le Processus. Salut Juliette, du coup tu es actrice dans la pièce. Est-ce que tu peux présenter la pièce vite fait, l'équipe, si possible?
Oui, bien sûr. Donc moi je m'appelle Juliette Alain, je suis comédienne donc sur ce projet qui s'appelle Le Processus, qui a été écrit par une autrice qui s'appelle Catherine Verlaguet, mis en scène par un homme qui s'appelle Johan Hibert. Et après, il y a plein de gens qui ont travaillé sur la pièce, dont là, sur la forme itinérante que vous avez vue, une création sonore de Jean-Baptiste de Tonquédec. Et là, je suis accompagnée par aussi Julien Leonelli, qui a été assistant à la mise en scène et qui est régisseur et assistant à la mise en scène sur le projet.
Ok, donc du coup, il y avait aussi le planning familial qui était présent à la représentation. Voilà, donc je suis en compagnie de Léna aussi, qui fait partie du planning familial.
Ouais, salut Arthur.
Salut, où est-ce que vous êtes basé? Enfin, c'est quoi vos missions, grossièrement?
Alors, le planning familial de Lozère, on est basé à Mende, on a un local à Mende. Et nos missions, c'est concrètement de faire de la prévention, faire de la prévention en milieu scolaire. Donc en fait, le gros de notre travail, c'est d'intervenir auprès de classes de collège, de lycée, de école primaire, sur ce qu'on appelle des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, donc autour de toutes les thématiques autour de la sexualité. Donc contraception, IVG, l'égalité filles-garçons, etc. La puberté, la vie affective. Et après, on a aussi une autre mission qui est vraiment de l'accueil, de l'écoute et de l'information et de l'orientation. On accueille des personnes en permanence au planning familial. Et voilà, et on oriente les personnes, on n'est pas médicalisé, mais on oriente les personnes vers des professionnels de santé pour que les personnes puissent avoir accès à des demandes autour de leur vie affective et sexuelle. Voilà, en gros.
Ok, donc maintenant une question qui concerne d'abord la pièce, mais ensuite le planning. Du coup, genre, d'où vient l'idée du spectacle? Enfin, quelles ont été les impulsions un peu, je sais pas, d'où viennent ces idées, quoi?
Alors, donc la pièce raconte l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui vit sa première histoire d'amour et qui tombe enceinte, et c'est tout son processus intérieur jusqu'à sa prise de décision et de faire une IVG. Donc tout son processus intérieur et aussi tout ce qui peut se passer avec son copain, avec sa famille, avec le milieu médical, voilà. Ça raconte ça. Et donc ce texte a été écrit par Catherine Verlaguer, et en fait Catherine a vécu une IVG plus tard dans sa vie de femme, et Catherine est quelqu'un qui est très à l'aise à l'oral, qui communique assez facilement, et quand ça lui est arrivé, du coup elle a échangé avec beaucoup d'amis à elle, filles, garçons, et elle s'est rendue compte qu'en fait c'était arrivé à beaucoup de ses proches mais qu'elle ne le savait pas. Et elle s'est dit, mais c'est quand même complètement fou que ça soit arrivé à tant de personnes et qu'on n'en parle pas, et que ça soit si tabou. Et donc, elle a eu envie d'écrire un texte là-dessus, sur ce thème-là, pour cette raison-là, je pense, première. Voilà. Et moi, quand j'ai lu le texte, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, fin, racontant beaucoup de choses, et ça m'a donné très envie voilà, de le jouer, de l'interpréter.
Et vous, comment est-ce que vous êtes venu avoir un lien avec ce texte, le planning familial?
Bah, nous, pour le coup, on a été invités par Les Scènes Croisées, donc, qui est diffuseur du spectacle. Et il me semble que, du coup, dans la diffusion du spectacle, du processus, il y a souvent une demande, justement, à ce que des, entre guillemets, professionnels de la thématique viennent discuter à l'issue du spectacle. Parce qu'il me semble, si je me trompe pas, Juliette, tu me dis Juliette, c'est que l'idée, c'est vraiment de venir discuter autour de cette thématique qu'est l'IVG, qui, pour le coup, est vraiment un sujet encore tabou aujourd'hui, et nous on défend clairement le droit à l'IVG au planning familial. C'est vraiment l'essence même de cette association à la base, à la création de cette association en 1956, où l'idée c'était vraiment de faire le choix d'avoir une maternité ou pas. Et du coup voilà, nous le planning familial, évidemment, nous semble très pertinent de venir, de discuter avec les personnes dès qu'il s'agit de cette thématique-là, parce que c'est un sujet clivant, parce que voilà, il y a des personnes qui sont anti-IVG, parce que voilà, c'est un droit qu'on enlève souvent aux femmes quand même. On le voit encore aujourd'hui en 2023, clairement, il y a des pays où ben, ce droit il est carrément enlevé. Donc voilà, en France, on a, on va dire, la chance d'avoir accès à ce droit qui est difficilement parfois. Qui est difficile d'avoir accès encore aujourd'hui. Mais voilà, du coup, nous, le planning familial, évidemment, dès qu'on entend IVG, on a envie d'y aller, quoi. Donc voilà, on remercie les Scènes Croisées pour le coup, et puis toutes les associations qui ont fait partie de la diffusion de ce spectacle. Voilà.
Alors, il y a un historique de l'avortement, bien sûr, en France, avec le MLAC, les années 60, Gisèle Halimi, etc. Enfin, est-ce que vous sentez que, malgré le fait que ce droit, il était, on a accédé à ce droit, est-ce que vous vous sentez encore fragile? Enfin, toi, est-ce que dans ton expérience avec les jeunes publics, par exemple, comment est-ce que tu sens que ça évolue, quoi?
Je pense que, comme beaucoup de droits des femmes, il va falloir toujours se battre pour les garder. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Et après, ce que je peux dire sur ce que je sens en jouant ce spectacle face à la jeune génération, je trouve vraiment que la jeune génération est très, très, très intéressante à plein d'endroits, et notamment à celui-là, parce que je les trouve vraiment très mature et très réceptif, et je trouve que les choses avancent et bougent dans le bon sens du terme. Vraiment, moi, ça me réjouit de voir à quel point justement tout ce qui est en cours sur l'égalité des sexes, et donc la révolution de l'égalité des sexes, et y compris relationnelle, comment cette jeune génération a grandi avec ça et du coup est vraiment empreinte de cette chose-là. Et je trouve que ça se voit chez eux. Voilà. Et ça me réjouit.
Et toi, Léna?
Moi, je suis assez d'accord avec Juliette dans le sens où, effectivement, de toute manière, les choses évoluent. Par contre, évidemment, en ce qui me concerne le droit des femmes, de manière générale, je pense qu'il faudra toujours continuer à se battre pour les garder. Ça, c'est, je suis vraiment d'accord avec ça. Et que rien n'est toujours joué. Et concernant le droit à l'IVG, pour le coup, même si là, on a entendu, alors j'ai pas trop envie d'aller trop dans les détails parce que je suis pas hyper calée, mais voilà, même si c'est soi-disant en train de rentrer dans la Constitution, etc. C'était le cas aux États-Unis aussi, hein, pour le coup, et puis voilà. Voilà, et puis après, pour ce qui concerne les jeunes générations, etc., alors oui, c'est sûr que ça évolue, ça avance, les jeunes sont de plus en plus intéressés aussi par les questions du féminisme et les questions du droit des femmes. Voilà, en revanche, effectivement, j'entends quand même encore toujours dans la bouche d'enfants, de jeunes, qu'on tue des enfants, quoi, quand on fait une IVG. Donc, alors, c'est une minorité de personnes. Mais du coup, c'est pas toujours très rassurant, et c'est pour ça aussi qu'il y a des spectacles comme Le Processus et qu'il y a aussi le planning familial qui débarque et qui vient essayer de travailler sur les idées reçues, justement, et la construction sociale qu'on peut avoir et les idées qu'on peut avoir sur l'IVG qui, pour le coup, méritent parfois d'être discutées vraiment, quoi. Donc voilà.
Oui, puis on a une société qui véhicule quand même pas mal des idées d'extrême droite, on peut le dire aussi, et du coup, je sais pas, est-ce que.
Peut-être que c'est de plus en plus clivant. Peut-être que ce qui se passe, je ne sais pas, dans la société, va dans les deux sens, mais du coup est de plus en plus soit dans l'extrême, en effet, sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire sur cette idée reçue de « on tue un enfant », etc. Et à la fois, il y a aussi une vraie progression. Et oui, peut-être qu'on peut s'interroger là-dessus et se dire qu'en effet, c'est de plus en plus clivant. Peut-être.
Je ne sais pas... Par exemple, est-ce que tu peux me parler d'une expérience qui t'a marqué quand tu as joué cette pièce devant un jeune public ou...
Par rapport à ce clivage-là, tu veux dire ?
Pas forcément, quelque chose qui t'a marqué, enfin, quelque chose, je sais pas, qui dirait quelque chose de notre génération, enfin, de cette génération, je sais pas si...
Je vais répéter un peu ce que j'ai dit, du coup, là, tout à l'heure, avec le public, parce que, ouais, ça a été un truc qui a été assez marquant. Je joue dans une classe, et puis le spectacle s'arrête, et donc, à chaque fois, après le spectacle, il y a une rencontre. Et à ce moment-là, donc je me présente et puis je leur demande s'ils ont des questions, des réflexions, ce qu'ils ont envie de dire. Et il y a un jeune garçon qui a levé la main tout de suite et qui a dit voilà, je voulais juste vous dire que je trouve ce spectacle hyper intéressant. Je suis en train de vivre ça avec ma copine et c'est exactement ça qui se passe. Et ce jeune garçon avait 15 ans et en fait, c'était... j'ai trouvé cette parole extrêmement courageuse, mature, et puis après la discussion qui a suivi entre eux a été absolument passionnante. Et des réflexions comme ça des jeunes, il y en a de plus en plus, quoi. Filles comme garçons. Je trouve que c'est une génération qui est en train de comprendre que pour les hommes, être viril, ça veut pas dire ne pas être responsable, ne pas avoir des émotions, ne pas considérer les femmes comme des interlocutrices à part entière, ne pas parler avec elles, etc. Mais peut-être que même être viril, c'est justement tout l'inverse, c'est être responsable, c'est avoir des émotions, c'est en parler, c'est considérer les femmes comme des interlocutrices à part entière, etc. Et je trouve que les jeunes filles veulent de plus en plus ça et choisissent de plus en plus des hommes qui sont capables de faire ça. Et voilà, et du coup, je la trouve passionnante à cet endroit-là, cette génération, vraiment.
Je ne me rappelle plus la question. Il y avait une question. Ah, c'est quelque chose de marquant.
Ouais, s'il y avait quelque chose de marquant, mais donc du coup, toi, ça serait forcément avec une autre approche, mais dans ces jeunes publics, est-ce que tu. Enfin, je ne sais pas. Quel aperçu t'as de cette génération, de cette nouvelle génération, quoi?
Moi, je m'aperçois que cette nouvelle génération, sur la question de l'IVG en tout cas, on en fait tout un plat souvent, justement, la question de l'IVG, est-ce que c'est traumatisant ou pas? Je m'aperçois que pour le coup, il y a. Finalement, on a beaucoup d'idées reçues sur le fait que les jeunes avortent beaucoup, 15-20 ans, alors que pour le coup, en termes de chiffres, c'est plutôt 25-35. Et que voilà, et qu'en fait, nous, les rares personnes qu'on accompagne sur des IVG qui sont mineures, c'est des personnes qui vivent très bien leur IVG, et c'est des personnes qui sont vraiment dans, voilà, comme tu dis, Juliette, qui ont le courage d'en parler d'une manière ou d'une autre, en tout cas, et qu'il y a effectivement. Alors ça dépend pas partout vraiment, parce que j'ai vraiment pas envie de faire une généralité de ça, mais parce que c'est encore très compliqué, je trouve, aujourd'hui de parler de son IVG sans se faire juger, sans se faire traiter de tous les noms, et etc., et de se faire culpabiliser. Mais effectivement, il y a quand même... en fait, on se fait, nous, adultes, en tout cas, on se fait une idée que les jeunes, oulala, attention, elles vont faire une IVG, ça va être traumatisant, c'est horrible, etc. Bon, alors que pour le coup, ce que j'observe, c'est que non, c'est pas traumatisant. En tout cas, ça dépend des personnes, mais voilà. Et que pour le coup, je vais rajouter ça, et c'était un peu le sujet de la discussion tout à l'heure après le spectacle, c'est que tout ça, le traumatisme et la question de l'IVG, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se construit sur ce que les autres pensent de nous et ce qui va influencer nos choix, etc., les autres, la famille, les professionnels de santé, les amis, les compagnons, etc., notre entourage, et qui vont vraiment avoir un impact sur comment on va vivre notre IVG. Et voilà, et je trouve que ça, c'est vraiment des choses à questionner et à réfléchir. Voilà.
Petite dernière question. Comment est-ce qu'on peut soutenir l'action du planning familial aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut soutenir, aider? Est-ce qu'il y en a besoin?
Alors, le planning familial, c'est une association nationale, donc il y a plein de moyens de soutenir cet asso. Pour le coup, on peut adhérer à l'association, déjà. Dans un premier temps, il y a les associations départementales, fédérales et confédérales, donc régionales et nationales. En gros, on peut soutenir l'association en adhérant, on peut devenir bénévole potentiellement, mais aujourd'hui en Lozère, le bénévolat, il n'est pas hyper évident, parce que les salariés sont très 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 occupés, et que voilà, mais potentiellement venir filer des coups de main sur les actions publiques, donc soit sur le 25 novembre, soit sur le 8 mars, etc. Donc c'est vraiment des actions publiques. Et puis après, on a des caisses de soutien pour accompagner des personnes qui ont recours à des IVG hors délai, pour le coup. En France, le délai pour un recours à l'IVG, c'est 14 semaines de grossesse ou 16 semaines d'aménorrhée. Et pour le coup, il y a des personnes qui se retrouvent hors délai de ces délais. Et du coup, qu'on accompagne dans des pays limitrophes à la France et qui coûtent beaucoup d'argent. Et voilà, donc on a des caisses de soutien. Donc ça peut être un moyen de soutenir le planning familial aussi, permettre aux personnes d'avoir accès aux IVG. Et voilà, et après, transmettre des super paroles féministes et se battre pour le droit à l'égalité des femmes et des garçons. Voilà.
Et toi, Juliette, qu'est-ce qui te reste au niveau date? Est-ce que t'en as encore beaucoup? Est-ce que t'en as fait beaucoup? Voilà, ça sera quoi la suite du spectacle?
J'en ai fait beaucoup et il m'en reste encore beaucoup. Et donc, on est très contents à la compagnie. Donc, la compagnie s'appelle le Théâtre de Romette. Et oui, moi, j'en suis à peu près à, je pense, 180, 190 dates. Et là, jusqu'en juin, j'y suis à peu près 2 semaines par mois sur ce spectacle. On va faire aussi Avignon au Train Bleu avec ce spectacle. Donc ça va aussi relancer toute une machine. Et on a encore, je pense que le spectacle a encore de beaux jours devant lui. Et ça me réjouit.
Super, merci beaucoup.
Merci.
Voilà, merci beaucoup Arthur, c'est la fin de cette matinale. Ce mercredi à 19h, l'équipe d'Open Barthas débarque sur nos ondes pour une nouvelle émission consacrée au pain. Cette matinale est rediffusée le jeudi à 17h. Merci à toutes et tous de nous suivre, on se retrouve mercredi prochain puisque c'est férié lundi. Et donc mercredi 12 avril, nous serons avec l'équipe de la Nouvelle Dimension pour le festival Vue du Québec qui arrive à grands pas. Prenez soin de vous, restez bien sûr Barthas, on n'y est pas trop mal. À la semaine prochaine, ciao.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you. Come away.